16h17, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. Une journée douce, une semaine qu'il va l'être tout autant. On a moins 2 degrés présentement à Québec. Le minimum est de moins 5 pour ce soir et cette nuit. On prévoit quelques flocons sous les nuages demain. Peut-être un petit peu de neige intermittente. Maximum 1 degré au-dessus de zéro. Mercredi, soleil moins 1. Jeudi, soleil plus 1. Vendredi, soleil moins 3 degrés. Et on reste à moins 3 degrés sur les aperçus moyen-long terme pour le prochain week-end. Pour nous rejoindre en studio, le 418-971-1021. Par téléphone, 780-1021 dans le 418. On est partout sur vos réseaux sociaux et ceux des autres aussi. On a une chaîne YouTube, pitoute. On a aussi le Twitch. Je suis entouré de splendides demoiselles. Twitch.tv, la chaîne BLVD, barre en dessous, FM. Et on va jaser de politique, on va jaser de commission Galant.
Ouais,
on va jaser de rapport Galant dans les prochaines minutes. Donc, si Éric Kerr veut se mettre au courant de ce qui se passe une fois dans sa vie, il peut écouter la discussion qu'on va avoir dans les prochaines minutes. Mais d'abord, on va regarder ce qui se passe sur les routes. Audrey.
Ça commence à ralentir pas mal sur la capitale, direction est, hauteur Robert Bourassa, ouest entre Henri Bourassa et Laurentienne. Laurentienne, direction nord, il y a un léger ralentissement à prévoir si vous êtes à la hauteur de Wilfrid Hamel. Mais Robert Bourassa, direction nord, à la hauteur de Charest. Il y a un ralentissement également, sinon c'est l'entrée des ponts, direction sud. Que vous soyez sur Duplessis ou Henri IV, difficile à partir de chemin Sainte-Foy. Pour ce qui est de la rive sud, ça se passe sur la 20 ouest, hauteur Taniata. Si vous voyez autre chose, c'est le 418-971-1028.
Véro.
Dépôt de du rapport de la commission Galant un peu plus tôt aujourd'hui. C'est quand même assez costaud. 586 pages plus les annexes, fait qu'on bosse le 800 pages. Je pense qu'on aurait pu écrire et les conclusions du rapport et les réactions à celui-ci quand même assez facilement si vous avez suivi moindrement ce qui s'est passé pendant la commission Galant. En gros, la SAC a menti pendant presque 10 ans sur les coûts, sur l'avancement du projet et du côté du gouvernement qui se targuait. Sans le rapport du vérificateur général, on n'était pas au courant. Ce serait plutôt en 2023, donc après le lancement catastrophique de SACLIC, que déjà l'information aurait été passée autant au ministère des Transports qu'au bureau du premier ministre. Mais aujourd'hui, les réactions des oppositions, c'est la faute du gouvernement, il y avait les informations. Du côté du gouvernement, ça s'est pas rendu à moi. Ça, c'est la sortie de François Legault. Il y a eu des sorties aussi de François Bonnardel qui dit avoir payé un gros coup politique, de Geneviève Guilbeault qui dit qu'effectivement, ils auraient pu mieux faire. Mais François Legault, sa nouvelle twist, c'est de dire va falloir que des gens soient imputables, puis on va essayer d'aller plus loin avec ça et de même d'aller chercher un volet judiciaire si parfois il y a des personnes qui ont commis des gestes qui ont provoqué ce problème-là avec le fiasco SACLIC.
Antonin Iacarini est analyste politique. Vous l'entendez tous les midis avec Jeff Fortin dans le caucus. Antonin, à partir du moment où le premier ministre s'en va, les ministres impliqués s'en vont, il n'y a plus personne qui travaille à la SAC qui est imputable, qu'est-ce que ça donne?
Il n'y a personne à punir. Qu'est-ce qu'on va faire?
Ouais.
Éric Kerr a déjà perdu sa job.
Ouais.
François Bonnardel a déjà perdu sa job.
Geneviève Guilbeault s'en va.
Geneviève Guilbeault ne se représente pas.
François Legault non plus.
Le premier ministre est un canard boiteux.
Mm.
Donc, effectivement, il reste quelques fonctionnaires. Bon, est-ce que de poursuivre au civil, ça va satisfaire les gens? Moi, je me pose toujours un peu la question. Il y a une enquête de l'UPAC aussi. Il faut quand même rappeler qu'il y a quelque chose qui se passe du côté criminel. Ça peut être long.
Parce que ça
peut déboucher sur rien.
De ce qu'on comprend, il n'y a rien à l'intérieur d'un rapport qui peut faire que tu peux aller chercher des gens au civil. Ça risque d'être beaucoup plus les enquêtes qui vont suivre. Puis encore là, j'ai rarement vu des poursuites pour incompétence.
C'est assez rare, mais c'est en fait, pour incompétence, non, mais pour malversation. Par exemple, usage de fonds publics pour des choses que tu n'es pas supposé de faire avec de l'argent public, il y a certains précédents. Et il faut savoir que les fonctionnaires sont protégés contre les poursuites quand ils ont fait quelque chose dans le cadre de leur travail. Mais si on fait une faute personnelle, tu es toujours passible de poursuite à n'importe quel moment et tu es poursuivi par le procureur général, donc par le ministre de la Justice. Mais comment tu fais pour prouver que c'est une faute personnelle et que c'est pas dans le cadre de ton travail?
Genre, là,
c'est plus
exemple,
compliqué.
Appeler quelqu'un loulou d'un courriel, on rentre pas ça dans les fautes personnelles.
Bien, se transférer un courriel avec l'appel d'offres, dans ton Gmail pendant que tu es au chalet, moi, je pense que c'est une faute personnelle. Mais moi, je ne suis pas avocate et je ne suis pas procureur de la Couronne. Mais je pense que c'est une faute personnelle. Ce n'était pas dans le cadre de ton travail. Ce n'était pas des ordres que tu recevais au-dessus de ta tête là, de faire ça. Puis tout le monde sait que ça ne se fait pas.
Mais quand tu caches des dépenses à un gouvernement, c'en est une faute personnelle ou une faute qui serait, je sais pas, méritoire d'une accusation? Tu sais, il y a des gens, et j'en suis, puis oui, on tourne peut-être les coins ronds, mais comment ça fait qu'il y a personne qui a des menottes aujourd'hui? Je comprends pas.
Ouais, puis on parle pas de 2 piastres là, qu'on a pris dans notre caisse. Là. On vraiment parle de 500 pas. Millions de dépassements. Mais en même temps, c'est très subjectif, parce que, vous voyez juste qu'est-ce qui se passe avec Geneviève Guilbeault. Elle dit, moi, j'avais pas de souvenirs expérientiels.
Oh, oui. Bon, oui, on se souvient
de
la cote.
J'adore cette citation-là. et elle a été mise au courant, effectivement, avant le rapport de la VG, mais elle a été mise au courant après le fiasco. Donc, ouais. Tu sais, bon. Puis, comment les choses ont été présentées pendant la commission, on a eu toutes sortes de témoignages. Puis là, tu te dis, OK, ça a été présenté.
Mais ça a-tu été plus haut?
Aurais-tu compris, toi, que c'était mauvais? Toi qui connais rien à l'informatique, mettons, là. On te présente un apron, on dit, ben ça, c'est correct. Là, on est rendu à 70 % de livraison, de déploiement, de machin, machin. Tu comprends rien de ça. Tu sais, le problème, c'est surtout l'incompétence.
Ça a l'air correct.
Ouais. Ça a de l'air correct. Donc, le rapport est très dur envers la fonction publique envers la SAAC, mais est-ce qu'ils sont capables de pointer une personne qu'on pourrait poursuivre au civil? Bon, on s'entend que le nom de Carl Malenfant apparaît 500 fois dans le rapport.
Ouais.
Puis il a pris une heure la semaine passée pour dire « c'est pas de ma faute, c'est inventé ».
Oui, puis de toute façon, même pendant le déploiement de sa clique, M. Malenfant, là, il disait que tout allait bien. Donc, à la limite, je me demande s'il se croyait. Tu sais, on se dit, ils ont menti aux politiques, ils ont menti aux parlementaires. J'ai l'impression qu'ils se mentaient à eux-mêmes aussi.
À ce moment-là, est-ce qu'il faut dire que le problème est au-delà de ça? Le problème, c'est notre machine qui n'est pas faite pour se lancer dans des grands projets, qui n'a pas suffisamment de compétences, de mécanismes pour éviter qu'on se fasse fourrer à gauche puis à droite quand on se lance dans des affaires qu'on n'a pas à faire toutes les semaines?
Tout est trop gros, puis on n'a plus le contrôle sur
rien. On n'a pas de compétences pour gérer quelque chose d'aussi gros. Là. On a dit le mime là, du chien avec des éprouvettes. Là.
Ouais,
comme un Golden Retriever qui joue avec des éprouvettes. C'est ça qui se passe. Puis ta question est bonne parce que je pense que c'est ça le nœud de l'affaire.
Parce que ça clique, là, on a ça. Mais on va avoir le dossier de santé numérique qui s'en vient. On a plein de dossiers actuellement de numérisation de tout.
Puis de toute la façon
les recommandations,
de faire ça. Exact.
Ouais. Les recommandations ne sont pas encore appliquées. Donc, les projets déjà en cours,
il est trop tard.
Il est trop tard, effectivement. Mais en fait, c'est qu'il y a deux histoires en parallèle dans cette affaire-là. Puis il y en a une qui nous donne envie de trouver des coupables parce qu'il y a eu des gens qui ont mal agi.
Oui.
Mais si on se concentre juste là-dessus, on va oublier de faire les changements structurels. Là, je parle comme fonctionnaire.
C'est important, je pense.
Changements structurels. Mais c'est que quand c'est structurel, ça veut dire que ce n'est pas le bon vouloir des individus. C'est la manière dont ça fonctionne. C'est tes processus, c'est tes chiens de garde, c'est tes parlementaires qui sont capables de voir les vrais chiffres parce qu'ils n'ont pas le choix.
Puis de les comprendre.
Et une personne imputable. C'est aussi l'autre conclusion de ce rapport-là et de toute cette histoire-là, c'est que tu dis, OK, le ministre des Finances a reçu un mémo, mais c'était pas, je disais, bon, mais il y a quelqu'un qui gère ça quelque part, visiblement, c'est pas moi en tout cas. Il y a quelqu'un au Trésor qui a vu ça passer, c'est pas moi qui gère ça, c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se disait, il y a un ministère du numérique qui doit gérer ça, j'imagine. Et après ça, il y a quelqu'un qui se dit, c'est une société d'État, fait que c'est le conseil d'administration qui doit gérer ça. Puis là, finalement, quand tout le monde s'occupe de quelque chose un petit peu, personne s'occupe de ça vraiment. Et ça donne des résultats comme ceux-là. Donc là, on aimerait ça pointer un coupable. Il y en a plus qu'un. C'était trop long comme projet. Il y a eu plein de gouvernements qui sont passés sur ce projet-là. Donc, l'attente qu'on a de pointer le coupable là, et de lui crier « shame, shame » là avec une cloche
comme
de
Game
le promener dans les rues comme dans Game of Thrones.
Ça ferait du bien. Là,
mais... Ça fait du bien. Mais au-delà de ça, il faut vraiment que les recommandations soient mises en application le plus rapidement possible. C'est comme une mini-commission Charbonneau
qu'on a eue.
Mais est-ce
qu'ils vont l'être? Parce qu'on dirait souvent qu'il y a des rapports puis qu'il n'y a pas grand-chose qui change.
Puis on regarde ce qui s'en vient. Là, je veux dire, tout le monde a été le gouvernement là, dans les 15 dernières années ou dans les 20 dernières années. Pas Québec solidaire, puis pas les conservateurs non plus, mais concentrons-nous sur les trois partis principaux. Puis particulièrement la CAQ là, qui nous avait promis de changer les choses.
C'est
et sur 8
raison.
Ans, ils ont poussé la même roue de la même façon. Ils ont même réussi à faire pire que les deux gouvernements précédents sous plusieurs aspects. Puis là, on voit ce qui s'en vient, puis c'est same old. Là, je comprends que les visages sont plus jeunes, mais que ce soit Fréchette, que ce soit Drainville, que ce soit Milliard, que ce soit PSPP...
Personne qui a des solutions aujourd'hui. Ils sont très bons pour attaquer l'administration actuelle.
Ah oui.
L'administration actuelle est très bonne pour attaquer les administrations passées, mais il n'y a personne qui arrive avec des solutions. Personne qui dit « Hey, là, on va s'asseoir, puis il y en a combien des grands projets qu'on est censé faire à l'intérieur d'un gouvernement, puis comment on fait pour s'assurer que les gens qui ont des comptes à rendre comprennent exactement ce qui se passe plutôt que de se faire bullshitter par n'importe quel beau-parleur.
Aujourd'hui, c'est vraiment la game politique qui a pris le dessus. Parce que là, évidemment, le gouvernement sont comme « yes ». Fait que là, on va attaquer les fonctionnaires, on va en rajouter, puis pour montrer à quel point c'est pas de notre faute, c'est le juge qu'on prend. Puis t'as les oppositions de l'autre côté qui ont quasiment l'air déçus du rapport. Bien, c'est désolé, là, la gang, là, mais tu sais, puis eux, c'est sûr que c'est plate parce qu'ils s'en vont pas en élection contre la SAC là, l'automne prochain. Ils s'en vont en élection contre la CAQ puis contre les autres adversaires politiques. Donc, ils auraient aimé ça avoir un peu plus de jus. Fait qu'ils vont se concentrer sur certains. Moi, je trouve que c'est plus des détails. Moi, que Geneviève Guilbeault ait été mise au courant avant le rapport de la VG, ça ne change absolument rien dans ma vie. Mm-hmm. C'est dommage. Elle a fauté au niveau politique. Elle a dit des choses qui peut-être... Parfait, mais est-ce que c'est ça qui a causé le fiasco puis nos dépassements de coûts? La réponse, c'est non. Il y a quand même eu, je dois le saluer, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne, parce que moi, je trouve qu'on jette tout notre argent par les fenêtres, puis c'était bien épouvantable, puis qu'on s'excite des fois avec des affaires bien moins graves dans notre société que ça, puis je trouve ça très grave, okay, les contrats informatiques et d'autres contrats gouvernementaux d'ailleurs. Il y a quand même Michel Cetlacoué, qui est porte-parole du PLQ en matière notamment d'informatique, qui a, il y a quelques mois, puis pendant même la commission, là, avait sorti une série d'idées, de recommandations, et je trouvais que c'était vraiment constructif. Je me disais, bon, elle n'a pas entendu la commission, fait qu'elle veut les devancer. Puis comme tu disais tantôt, Véro, si tu as suivi un peu le dossier, tu te doutais de ça allait être quoi les recommandations. C'est évident qu'on manque de compétences, c'est évident qu'il n'y a pas eu assez de reddition de comptes, etc. Tout le monde sait ça, les appels d'offres sont mal faits, on sait tout ça. Donc, elle a fait cette série de propositions-là. Mais maintenant, comment on fait pour que ce soit appliqué? Donc, là, on est en année électorale. Il faut que ce qui est possible de faire cette année, le gouvernement ait déjà mis les premiers jalons, mais ça ne se fait pas en 5 minutes. Il faut que les partis politiques prennent tous des engagements précis sur ça. Donc, ça va devenir un enjeu de campagne électorale.
Tu penses?
Bien, il faut, parce que, puis tu l'as dit, la CAQ a fait des shows pendant des années avec Éric Kerr là, pour dire que l'informatique, ça n'avait pas de bon sens. Au niveau de comment ça s'est décliné pendant les 8 ans au pouvoir, bien, c'est ça sûr qu'on va se faire attaquer. Là.
Le chien de garde était tranquille. Là. Il n'y avait pas de dents et il ne voyait plus rien.
C'était rentre en plan.
Le shérif était dans
c'est
la lune.
Rentre en plan.
Donc, je pense que si, en tout cas, si vous étiez chef là, des autres partis politiques, il me semble que vous attaqueriez là-dessus. Ça va être un enjeu de campagne électorale. Mais au-delà de la partisanerie, il faut que ces recommandations-là soient appliquées. Et moi, je suis quand même optimiste parce que Charbonneau a été appliqué. Puis c'est un petit Charbonneau qu'on a vécu quand même. Et j'ai bon espoir qu'il y ait un coup politique à ne pas appliquer puis les recommandations.
Il doit en avoir des projets qui vont bien à l'intérieur du gouvernement, peut-être très pas dans l'ampleur de sa clique.
Mais c'est ça l'affaire. Là,
c'est la catastrophe partout. Ou encore, on peut-tu se baser sur ce qui fonctionne pour essayer de bien faire? Il doit y avoir des manières de faire, je peux pas croire. Là.
Bon, puis sérieusement, il faut vraiment que ça change du tout au tout. Là. C'est vraiment en profondeur. C'est pas juste la SAC. Puis c'est pour ça que je dis, c'est correct qu'il y ait des gens qui aient mal agi, mais c'est pas juste ça. C'est pas vrai. Les autres projets qui ont mal été, là, il n'y avait pas nécessairement un calme à l'enfant là, dans chacun des projets. C'est pas vrai, OK? Donc, le problème, c'est que quand... Toi, par exemple, tu es ministre de l'Éducation. Puis là, on dit, il faut qu'on change le système de, je sais pas quoi, des inscriptions dans les écoles, des centres de services scolaires. Je dis n'importe quoi. Et là, vient le temps de dire, OK, mais c'est quoi notre besoin exactement? Juste à ce moment-là, tu as un paquet de noobs autour d'une table. OK, on connaît pas ça. Là, on essaie de faire un brief pour des compagnies, là, parce qu'on va faire un appel d'offres.
Mais on n'est pas capable. Ça prend un traducteur entre les deux. Là.
Ben, c'est ça. Mais sauf que les gens compétents n'ont aucune envie d'aller travailler dans les centres de services scolaires. Puis au gouvernement du Québec non plus. C'est plate. On est en retard technologiquement. Les conditions de travail sont correct dans le sens que tu as visiblement une sécurité d'emploi. D'ailleurs, les gens qui font des affaires pas correctes en informatique gardent leur job vraiment longtemps. Mais c'est plus intéressant au privé. Tu vas travailler de manière plus agile. Tu vas déployer des affaires qui fonctionnent. Tu vas travailler avec des bons collègues.
Fait que c'est pour ça qu'au privé, Amazon va refaire son site puis ils fermeront pas 3 semaines, mettons. Là.
Écoute, moi, je connais des gens qui ont des entreprises technologiques. Là. Mm-hmm. Ils font des changements de système pour genre des armées. Pour des compagnies aériennes, pour des compagnies cartes de crédit, ils peuvent pas fermer 3 semaines.
Ah non, il y a pas de bris de service?
Non, l'armée peut pas fermer 3 semaines. Puis ça marche pareil. Donc, à quelque part, ça doit se pouvoir. Puis je trouve qu'on est très rapide à mettre toujours le blâme sur les compagnies privées. Ah, oh, c'est des méchants. Ils veulent nous arnaquer.
Ils ont profité de nous autres.
Écoute, le gouvernement a ses torts. Il y a plein d'entreprises qui ne veulent même pas faire affaire avec le gouvernement parce qu'ils se disent « ça va être voué à l'échec, puis on va passer pour des tarlats. Non, merci. »
Mais tu as d'autres compagnies qui vont dire « OK, on va demander beaucoup de choses, on va imposer beaucoup de pénalités parce qu'on sait qui ne connaissent pas ça et ce qu'ils nous demandent, on ne sera pas capable de le faire comme ils pensent que ça se fait. On profite de l'incompétence du gouvernement quand
même. On se dit, mais on va se payer pour tous les délais qu'ils vont créer, ouais, pour le besoin qui ne sera pas rempli.
On est là-dedans pour 10 ans.
J'avais entendu le premier ministre dire en commission, moi, je pense qu'il faut que les entreprises assument les dépassements de coûts.
Mm-hmm.
Parfait, il n'y a plus personne qui va bider. Vous n'aurez plus personne pour bider ces contrats. Parce que, puis parler avec n'importe quelle firme de génie conseil qui fait affaire avec le gouvernement, il dit c'est eux qui créent les délais.
Ouais.
Donc là, il faut juste mieux organiser les affaires. Fait que là, comment on fait pour bien définir le besoin? Le rapport Galland le dit, ça prend une entité centralisée, ça se posait de s'appeler le ministère de la cybersécurité du numérique, il faudrait qu'il fasse sa job. Parce qu'on ne peut pas, dans chacun des ministères, avoir des top guns en informatique. Ça n'arrivera pas.
Non.
Donc, on doit les avoir disponibles pour tout le monde. Ils doivent reviser les besoins qui sont définis, les appels d'offres. Il faut qu'il y ait de la gestion de projet et de la gestion de risque. Okay? Là, c'est des affaires plates, là, mais ça se fait. Donc, on peut faire mieux au Québec, puis il faut commencer par mettre ces recommandations-là en action le plus rapidement possible sans rajouter de la bureaucratie. Ça, c'est un beau défi. Bonne chance à tout le monde.
Oui, puis moi, j'ai hâte de voir les engagements par rapport à ça. Je veux dire, le blame game, je pense que tout le monde est un peu tanné, puis je pense qu'on comprend que tout le monde a eu son essai avec la machine, là, puis que tout le monde s'est cassé les dents. Là. Puis le fait que, là, on soit sur une nouvelle couche de vernis, là, avec du nouveau monde en avant, je pense que les gens sont de moins en moins dupes, malheureusement de plus en plus cyniques. Ça va prendre du concret pour que les gens recommencent à faire confiance.
Puis des contrats, des projets sur 10 ans, là, ça n'a aucun sens. Imaginez, vous faites vos rénovations, vous rénovez votre cuisine sur 10 ans. Es-tu capable de me dire...
En partant, la banque va te dire non pour ton prêt.
Premièrement, ils vont dire non pour le prêt, OK?
Ouais,
puis deuxièmement, t'es incapable de savoir combien ça va avoir coûté à la fin.
Impossible.
C'est sur 10 ans. Puis là, en plus, pendant les rénos, tout s'est mis à couler, les tuyaux se sont mis à couler d'eau. Mm-hmm. Puis ton contracteur, il t'a dit, tu veux-tu rajouter 10 000 $ parce que je pourrais arrêter tes tuyaux qui coulent? Bien, évidemment, je vais rajouter 10 000 $. Je suis rendu à moitié de ma cuisine de fête. Puis là, t'as trois gouvernements qui sont passés pendant ce projet-là. Fait qu'il n'y a plus personne de responsable.
Exact.
C'est ça le problème.
C'est la faute à tout le monde et à personne à la fois.
Et voilà, c'est beau.
Non. Antonine Iacarini, merci beaucoup.
Bonne soirée.
On te retrouve demain midi avec Jeff Fortin, 16h34, à Boulevard 102.1. L'histoire a été réécrite dans les dernières minutes pour le hockey féminin, alors que Marie-Philippe Poulin est rendue la plus grande marqueuse de but de l'histoire du hockey féminin aux Olympiques.
Oui, alors que c'était son premier de deux buts contre l'équipe suisse, d'ailleurs, en frais de tir au but. Va falloir saluer la gardienne parce que ça n'a juste aucun sens. On est rendu à 35 tirs pour le Canada contre 4 seulement contre la Suisse.
Ouch.
Donc, à ce moment-ci, ça va plutôt bien pour les femmes en demi-finale.
Et rappelez que le Canada a doublé sa production de médailles d'or aujourd'hui.
Oui, c'était autour...
Passé de 1 à 2.
En fait, puis Megan Oldham a aussi réussi à doubler sa production de médailles. Elle avait déjà eu le bronze en slopestyle il y a quelques jours à peine. Et finalement, en frisky big air, elle s'est retrouvée avec l'or au cou cet après-midi. La compétition qui avait été repoussée à cause des conditions météo. Fait que c'était de très belles nouvelles. Puis au moment où on se parle en patinage artistique pour le programme libre, bien, on a nos Canadiens qui étaient troisièmes après le programme court, pardon, qui sont en plein dans leur exécution.
16h35, on revient.
Pour joindre l'équipe de Gravel dans le...